Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce coup de théâtre hier à Londres, avec ce vote des députés et une nouvelle demande du report du Brexit, dont la date est prévue à la fin du mois. Une décision qui déçoit et agace certains eurodéputés, vous l'entendrez. Dans l'actualité de ce dimanche également, de nouvelles perturbations à craindre aujourd'hui à la SNCF. C'est la conséquence du droit de retrait exercé par les cheminots, un mouvement qualifié de grève sauvage par le Premier ministre. À suivre la levée des dernières restrictions de commercialisation des produits agricoles dans la région de Rouen, une décision qui intervient 3 semaines après l'incendie du Dubrizol. Et puis, une exposition à ne pas manquer au Grand Palais, à Paris, une exposition retraçant l'œuvre de Toulouse-Lautrec. À 8h10, le journal des sports présenté par Amaya Cazenave et un match à ne pas manquer pour les amateurs de rugby, celui qui va opposer à 9h15 les Français aux Gallois en quart de finale de la Coupe du Monde, avant bien sûr le Japon-Afrique du Sud à 12h15. Et puis à 8h20, il sera question de justice sociale et environnementale en compagnie de votre invité Éric Delvaux.
Oui, Éric Piolle, il est le maire écologiste de Grenoble, il vient de signer un livre, Grandir ensemble, les villes réveillent l'espoir. Le livre paraît aux éditions Les Liens qui libèrent.
France Inter.
Britanniques et Européens devront donc encore attendre pour connaître le dénouement du Brexit après ce coup de théâtre qui s'est produit hier à Londres. Par 322 voix contre 306, les députés réunis toute la journée d'hier à Westminster se sont en effet prononcés en faveur d'un amendement. Un amendement reportant tout vote sur l'accord arraché aux Européens par Boris Johnson et donc proposé au Parlement britannique. Du coup, le Premier ministre britannique se devait, contraint par la loi, de s'adresser au président du Conseil européen dans le but d'obtenir une extension du calendrier pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. C'est ce que Boris Johnson a fait, mais en envoyant non pas une, mais 2 lettres, dont une non signée de sa part, Antoine Gignot.
2 lettres, 2 ambiances. Dans le premier courrier adressé à Donald Tusk, Boris Johnson demande au président du Conseil européen un délai. Il propose de repousser le Brexit à la fin du mois de janvier prochain pour éviter une sortie sans accord comme la loi l'y oblige. Mais le texte, en bas de page, n'est pas signé et il est surtout accompagné d'un deuxième courrier dans lequel le Premier ministre explique qu'il ne faut surtout pas tenir compte de cette demande de report. Le Parlement, ce sont ses mots, a manqué une opportunité, mais je reste confiant. Nous ferons passer toutes les lois nécessaires la semaine prochaine. Nous sommes en mesure de boucler l'ensemble du processus avant le 31 octobre. C'est évidemment à vous, dirigeants européens, écrit Boris Johnson, de décider de la suite, mais un délai supplémentaire porterait atteinte à notre relation. Une demande schizophrénique aux allures de tour de passe-passe qui permet à Boris Johnson de rester dans la légalité et donne à Bruxelles la lourde responsabilité de décider de la suite. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et de fait, les regards se tournent maintenant du côté de l'Union européenne, qui doit faire connaître sa réponse dans les jours qui viennent, celle de savoir si elle octroie un nouveau délai à la Grande-Bretagne, ou bien alors si elle maintient une sortie sans concession de la Grande-Bretagne pour la fin du mois. L'Union européenne, où certains ne cachent pas leur déception et leur agacement à l'image de l'eurodéputé En Marche, Pascal Durand.
Le feuilleton continue, ça fait maintenant 3 ans que ça dure. Ça nous met tous dans une situation incroyable d'expectative, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas. L'Europe n'arrive plus à fonctionner réellement puisqu'elle a la moitié de son temps au moins qui est pris là-dessus. Donc on est quand même vraiment dans une situation pénible. Je vais vous donner un exemple, on est en train de discuter du budget. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le budget pour les 6 ans qui viennent de 27 pays est en l'état suspendu en l'air? Et donc on ne peut pas voter le budget, on ne peut plus imaginer quels vont être les programmes sociaux, les programmes d'investissement ou autres, tout simplement parce qu'on ne peut pas savoir si, oui ou non, la contribution britannique sera payée ou pas. On ne sait plus quoi faire, on va pas se mentir. Mais j'ai le sentiment qu'on va donner un nouveau délai, tout simplement parce que le fameux no deal que Boris Johnson utilise comme une menace est une catastrophe pour tout le monde.
L'eurodéputé Pascal Durand, micro de Johanna Hochstein.
Oui, je suis là.
Et dès ce matin, les ambassadeurs des 27 pays restants de l'Union européenne vont se retrouver à Bruxelles pour discuter justement de ce Brexit.
Incertitude donc sur le Brexit et incertitude également. Bon, je crois qu'il y a du monde sur la ligne.
Oui, apparemment, nous avons nos amis rugbyman qui sont en avance. Oui.
Incertitude également en France à propos de la poursuite du mouvement des cheminots en France.
Oui, en effet, une incertitude doublée d'une polémique, celle de savoir si le droit de retrait des cheminots décider après l'accident de mercredi dans les Ardennes est légal ou pas. Venu épauler le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, gare de l'Est, hier, le Premier ministre Édouard Philippe n'a pas hésité en tout cas à parler de grève sauvage. Attention au jugement hâtif, lui répond ce matin Daniel Saada, avocat en droit du travail.
De toute manière, si d'aventure il y a contestation quant à l'exercice du droit de retraite, c'est évidemment le juge qui sera amené à devoir statuer sur les éléments de fait ayant amené les agents à engager ce droit de retrait. Donc il ne suffit pas d'affirmer quelque chose dans un souci de communication politique pour que juridiquement ce quelque chose se transforme en une réalité. Vous savez, je vous rappelle quand même la bataille sur la validité de l'exercice du droit de grève lors de la précédente grève SNCF, où tant le gouvernement que la direction de la SNCF avaient bataillé pour venir dire que ce mouvement était, si ce n'est illicite, du moins un détournement du droit de grève. Or, tel n'a pas été l'avis des juridictions saisies.
Daniel Saada, avocat en droit du travail, joint au téléphone par Maxime Debs. En attendant, la SNCF connaît aujourd'hui de nouvelles perturbations. Seul, par exemple, un Ouigo sur trois circule ce matin. On fait le point à 9h, gare de Lyon à Paris.
Trois semaines après l'incendie de Lubrizol à Rouen, les dernières restrictions de commercialisation des produits agricoles viennent d'être levées.
Les maraîchers de la région peuvent donc, depuis hier, vendre à nouveau leurs produits. Une décision qui était très attendue, comme vous pouvez l'imaginer, et qu'a pu constater Rudy Pupin de France Bleu Haute-Normandie en se rendant hier sur le marché de la place Saint-Marc à Rouen.
Ça nous booste ça, hein ?
C'est un soulagement pour Pascal Prévost. Ce producteur de Quincampoix a été concerné par l'arrêté et ses étals sont beaucoup plus remplis que ces derniers jours.
J'ai pris le temps d'accueillir quelques caisses de salade pour pouvoir les présenter à mes clients ce matin.
Mais la priorité maintenant pour lui, c'est d'éviter les pertes.
Le chou-fleur par exemple est en train de s'ouvrir et de blanc il va passer jaune, on ne pourra plus le récolter. La salade, il ne faut pas qu'il gèle. Il y aura un impact quand même en termes de pertes, mais pour l'instant les poireaux, les céleraves, les choux, ils attendent. Ça aurait pu être nettement pire que ça.
Quelques mètres plus loin, Christelle, maraîchère près de Saint-Saëns dans le pays de Bray, la levée de l'arrêté est une véritable bouffée d'oxygène pour son chiffre d'affaires en baisse ces dernières semaines.
40% de moins toutes les semaines. On a perdu plus de 2 000 euros. On a des factures à payer toutes les semaines et cet été ça a été compliqué. Donc pour l'arrosage et tout ça, des sommes d'eau à payer et tout qu'on n'a pas d'habitude, ça nous a pas aidé. C'est irrattrapable parce que non seulement irrattrapable c'est bien, ils ont fait la levée, mais maintenant il faut reconquérir les clients.
Des clients plutôt au rendez-vous, comme Chantal.
Ça fait plaisir parce que nous on aime manger de la qualité hein, et c'est pour ça qu'on vient chez les maraîchers. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de revoir tous ces légumes sur les étals.
Au total, 112 communes de Seine-Maritime étaient concernées par l'arrêté préfectoral.
Et sachez enfin que le PDG de Lubrizol, Eric Schnurs, devrait être entendu mardi prochain en fin de matinée au Sénat par la commission d'enquête sur la gestion des conséquences de l'incendie de son usine. Audition ouverte au public.
Il n'y a pas que la FIAC qui occupe ce week-end le Grand Palais à Paris. Le monument situé près des Champs-Élysées accueille également une exposition Toulouse-Lautrec.
Et plus de 200 œuvres de l'artiste, certainement l'un des plus doués du 19e siècle, attendent les visiteurs. Un artiste doué donc, mais dont l'image a parfois été entachée d'une réputation de buveur et de noceur, Jacqueline Petroz.
On ne doit pas enfermer Toulouse-Lautrec dans une caricature d'homme de la nuit lubrique et jouisseur. Ses tableaux, dessins et estampes ont un souffle de liberté qui annonce l'art moderne. Monsieur de Toulouse-Lautrec, malgré un regard cru et acéré, nous tend le miroir d'une humanité qu'il respecte profondément, des aristocrates aux prostituées. Stéphane Guégan, l'un des commissaires de l'exposition.
Il n'est pas là pour catégoriser, il respecte le mystère des êtres. C'est au fond un peintre d'individus. Derrière les prostituées, il voit des femmes, il établit des relations, j'ai presque envie de dire d'égal à égal, parce que dans le monde du plaisir, toutes les barrières tombent. C'est aussi ça que sa peinture nous dit. On voit d'ailleurs au Moulin de la Galette, au Moulin Rouge, des bourgeois, des aristocrates comme lui, des filles du peuple, des proxénètes. Tous ces gens-là vivent au rythme de la musique, sous la lumière artificielle qui donne de la magie à tout. Et Lautrec a été capable, lui l'aristocrate, de s'élever au-dessus de la morale commune et de montrer comment il y avait une sorte de porosité entre les classes de la société.
La scénographie froide n'empêche pas de ressentir les vibrations des couleurs et du trait de ses crayons et pinceaux. Hautement talentueux, Lautrec croque son monde avec sincérité et indulgence.
Toulouse-Lautrec, l'insaisissable, c'est au Grand Palais à Paris jusqu'au 27 janvier. C'est la fin de ce journal. C'est à vous, Eric Delvaux, qu'on va pouvoir retrouver nos amis des sports au Japon.
Exactement, on y va. Merci Serge Martin.